Trois semaines plus tard, juste avant la fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été, je suis parti pour Dallas prendre quelques photos des trois appartements où vivraient Lee et Marina. Je me servis pour ce faire d'un petit minox dissimulé dans la paume de la main, laissant dépasser l'objectif entre mes deux doigts écartés. Je me sentais ridicule. Une caricature en trench coat noir et blanc d'un espion de « espion contre espion » du magazine Mad plutôt que James Bond. Mais j'avais appris la prudence. À mon retour, j'ai trouvé la Nash Rambler bleu ciel de Mimi Corcoran garée le long du trottoir avec Mimi en train de remonter au volant. Elle en redescendit dès qu'elle me vit. Une brève grimace, douleur ou effort, je ne sais pas, crispa son visage. Mais en remontant mon allée, elle arborait son sourire coutumier de fine mouche. Comme si je l'amusais, mais dans le bon sens du terme. Elle tenait à la main la grosse enveloppe en kraft marron qui contenait les 150 pages de mon texte, La ville assassine. J'avais fini par céder à ses demandes insistantes, mais ça ne datait que de la veille. Soit vous avez adoré, soit vous n'êtes pas allé plus loin que la page 10, lui ai-je dit en prenant l'enveloppe. Alors ? Son sourire maintenant me paraissait plus énigmatique qu'amusé. La plupart des bibliothécaires lisent vite. Pouvons-nous entrer pour en parler ? Nous ne sommes pas encore à la mi-juin et il fait déjà si chaud. C'était vrai. Et elle était en sueur, ce qui m'étonna. Je ne l'avais jamais vue transpirer auparavant. De surcroît, elle semblait avoir perdu du poids. Mauvais, ça, pour quelqu'un qui n'avait pas un gramme à revendre. Quand nous fûmes installés dans mon salon, moi dans le fauteuil, elle sur le canapé, devant de grands verres de café glacé, Mimi me donna son opinion. J'ai bien aimé cette histoire de tueur déguisé en clown. Trouvez-moi tordu si vous voulez, mais j'ai trouvé ça délicieusement effrayant. Attordu, tordu et demi. Mimi a souri. Je suis sûr que vous trouverez un éditeur pour ce livre. Je l'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Ce « dans l'ensemble » m'a fait l'effet d'une douche froide. La ville assassine avait peut-être eu vocation de camouflage dans les débuts, mais à mesure que je progressais dans son écriture, ce texte avait gagné en importance pour moi. C'était comme mes mémoires secrètes, l'un de mes soutiens vitaux. Votre « dans l'ensemble » me rappelle Alexander Pope. Vous savez, noyer quelqu'un sous des semblants d'éloge. Je ne l'entendais pas exactement de cette façon. Encore une forme de réserve. C'est seulement que... Oh bon sang, George, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour enseigner. Et si vous publiez un livre comme celui-là, aucune administration scolaire dans aucun état des États-Unis ne voudra plus vous embaucher. Elle se tut. Sauf peut-être dans le Massachusetts. Je n'ai rien répondu. J'étais sans voix. Ce que vous avez fait avec Mike Coslow, ce que vous avez fait pour Mike Coslow, est la chose la plus étonnante et la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. Mimi, ce n'est pas moi, c'est lui. Il est naturellement doux. Je sais qu'il est naturellement doué. Ça sautait aux yeux dès qu'il est entré sur scène et a ouvert la bouche. Mais je vais vous dire une chose, mon ami. Une chose que 40 ans d'expérience dans les lycées et 60 années de vie m'ont apprise et bien apprise. Le talent artistique est largement plus répandu que celui de le faire fructifier. Tout parent autoritaire peut le broyer à jamais. Mais le nourrir est chose beaucoup plus difficile. C'est un talent que vous possédez, et en bien plus grande quantité que celui qui vous a inspiré ceci. Elle tapota la liasse de feuillets posée devant elle sur la table basse. Je ne sais que dire. Dites-moi merci, et complimentez-moi sur mon jugement perspicace. Merci. Et votre finesse psychologique n'est surclassée que par les agréments de votre physique. Cela la fit sourire. Un sourire plus désabusé que jamais. Ne profitez pas de votre avantage, George. Non, Miss Mimi. Son sourire disparut. Elle se pencha en avant. Ses yeux bleus nageant derrière ses lunettes, il paraissait trop grand pour son visage. Sous sa peau bronzée, son teint était jaunâtre et ses joues auparavant fermes s'étaient creusées. Quand cela était-il arrivé? Dès qu'elle l'avait-il remarqué? Ça, c'était tarte comme question, comme disaient les jeunes de cette époque. Deke n'aurait pas remarqué qu'il portait deux chaussettes différentes avant de les enlever le soir pour se coucher. Et encore! Elle poursuivit. Phil Bateman ne menace plus seulement de prendre sa retraite. Il a arraché la goupille et lancé la grenade, comme dirait notre délicieux entraîneur Borman. Ce qui veut dire que son poste est vacant. Venez enseigner à plein temps au lycée de Denholm, George. Les jeunes vous aiment. Et après la pièce des premières et terminales, toute la ville vous tient pour le second avènement d'Alfred Hitchcock. Deke n'attend que votre candidature. Il me l'a dit hier soir. Je vous en prie. Prenez, s'il le faut, un pseudonyme pour publier ce titre. Mais continuez à enseigner chez nous. C'est pour ça que vous êtes fait. Je crevais d'envie de dire oui. Parce qu'elle avait raison. Mon travail n'était pas d'écrire des livres, et certainement pas de tuer des gens, quand bien même ils le méritaient amplement. Et puis, il y avait Jody. J'y étais venu en étranger, exilé de son lieu et de son temps, et les premières paroles qui m'avaient été offertes ici, par Al Stevens dans son petit resto, avaient été des paroles d'amabilité. Si vous avez déjà eu le mal du pays où vous êtes senti en exil, loin des choses et des êtres qui définissaient votre identité, vous savez l'importance que peuvent avoir des paroles de bienvenue et des sourires amicaux. Jody était l'anti-Dallas. Et voici maintenant que l'une de ses plus éminentes citoyennes me demandait d'en être un résident permanent plutôt qu'un visiteur de passage. Mais la ligne de partage des eaux approchait. Elle n'était cependant pas encore tout à fait là. Pourquoi pas ? George ? Vous faites une mine étrange, soudain. C'est ce que l'on appelle penser. Voudriez-vous m'en laisser le loisir, s'il vous plaît ? Elle porta ses mains à ses joues et arrondit la bouche en un O d'excuse de bande dessinée. Eh ben, c'est moi qui ai bonne mine maintenant, dit-elle. Je l'ai ignoré parce que j'étais occupé à feuilleter les notes de Hall. Oh, je n'avais plus besoin de les avoir sous les yeux pour ça. À la prochaine rentrée scolaire en septembre, Oswald serait toujours en Russie, même s'il avait déjà commencé ce qui serait une longue bataille de formalités administratives pour rentrer en Amérique avec son épouse russe et leur fille June, dont Marina serait enceinte d'un jour à l'autre à présent. C'était une bataille qu'Oswald finirait par gagner, en faisant jouer la bureaucratie d'une superpuissance contre l'autre, avec une instinctive, quoique rudimentaire, habileté. Mais la famille Oswald ne descendrait pas du SS Masdam pour fouler le sol américain avant le milieu de l'année suivante. Quant au Texas... Mims, l'année scolaire s'achève généralement la première semaine de juin, n'est-ce pas ? Oui, c'est toujours le cas. Cela laisse aux jeunes le temps de trouver un emploi d'été pour ceux qui en ont besoin. Quant au Texas, les Oswald y arriveraient le 14 juin 1962. Et un contrat d'enseignement est toujours signé à l'essai, n'est-ce pas ? Disons un essai d'un an. C'est cela, avec option de tacite reconduction en cas de satisfaction de toutes les parties. Alors, vous avez trouvé votre professeur d'anglais à l'essai. Elle éclata de rire, applaudit, se leva et me tendit les bras. Merveilleux ! Une accolade pour Miss Mimi ! Je l'étreignis et la relâchai précipitamment en l'entendant hoqueter. Vous avez quelque chose de travers, ma'am ? Elle se rassit sur le canapé et prit une gorgée de son café glacé. Permettez-moi de vous donner deux conseils, George. Le premier, lorsque l'on vient des régions plus au nord, c'est de ne jamais appeler une Texane « mam ». Cela a une consonance sarcastique. Le second, c'est de ne jamais demander à une femme si elle a quelque chose de travers. Essayez donc une tournure un peu plus délicate, du genre « Est-ce que vous vous sentez bien ? » Est-ce le cas ? Pourquoi cela ne le serait pas ? Je vais me marier. J'en suis resté quoi ? Incapable de formuler la réplique adéquate à pareille boutade. Puis, à l'expression grave de son regard, j'ai deviné que ce n'était absolument pas une boutade. C'était une stratégie pour esquiver autre chose. Une chose moins agréable, certainement. Dites-moi donc, félicitations, Miss Mimi. Félicitations, Miss Mimi. Deke m'a fait sa demande il y a presque un an. Je l'ai conduit en arguant que c'était encore trop tôt après le décès de sa femme et que cela ferait jaser. Mais le temps passe et l'argument a perdu de sa valeur. Je doute que les gens auraient beaucoup jasé de toute façon vu notre âge. Ils se rendent bien compte que des personnes comme Deke et moi peuvent se dispenser du luxe des convenances dès lors qu'ils ont atteint un certain, disons, degré de maturité. Non, à la vérité, c'est que les choses me convenaient telles qu'elles étaient. Le cher vieux grison m'aime infiniment plus que je ne l'aime. Néanmoins, j'ai énormément d'affection pour lui. Et au risque de vous embarrasser, même les dames qui ont atteint un certain degré de maturité ne sont pas contre une bonne séance de ça, le samedi soir. Je vous ai embarrassé ? Non, lui ai-je fait. Au contraire, vous m'enchantez. Encore le petit sourire désabusé. Parfait. Car voyez-vous, ma première pensée le matin quand je repousse mes couvertures et que mes pieds touchent le sol, c'est « Y aurait-il une façon d'enchanter George Amberson aujourd'hui ? Et si oui, comment dois-je m'y prendre ?»« Ne profitez pas de votre avantage, Miss Mimi. Voilà qu'est parlé comme un homme. » Elle but une gorgée de café glacé. J'avais deux objectifs en venant ici aujourd'hui. J'ai accompli le premier. Je vais maintenant passer au second, de façon à vous laisser vous consacrer à votre journée. Deke et moi, nous marions le 21 juillet, qui est un vendredi. La bénédiction sera une petite cérémonie privée à son domicile, juste nous, le prédicateur et quelques membres de la famille. Ses parents, qui sont encore assez vigoureux pour des dinosaures, arrivent de l'Alabama et ma sœur de San Diego. La réception sera une garden party chez moi le lendemain, de 2 h de l'après-midi jusqu'à pas d'heure. Nous invitons presque tout le monde en ville. Il y aura une piñata et de la limonade pour les plus petits, un barbecue et des fûts de bière pour les plus grands, et même un orchestre de San Antonio. Et celui-là, à la différence de la plupart des orchestres de San Antonio, saura jouer Louis Louis aussi bien que La Paloma. Si vous refusiez de nous gratifier de votre présence, vous en seriez très malheureuse, il vous manquerait quelque chose, c'est cela ? Exactement. Retenez-vous la date ? Absolument. Bien. Deke et moi partirons pour le Mexique le dimanche. Le temps que sa gueule de bois soit dissipée. Nous sommes un peu âgés pour une lune de miel, mais il se trouve que certaines ressources, indisponibles dans l'état du Colt Sicu, le sont au sud de la frontière. Certains traitements expérimentaux. Je doute qu'ils marchent, mais Deke est plein d'espoir. Et bigre, ça vaut la peine d'essayer. La vie... Elle poussa un soupir de regret. La vie est trop douce pour y renoncer sans se battre. Vous ne trouvez pas ? Si, lui ai-je confirmé. Si. C'est pour ça qu'on s'accroche. Elle me regarda attentivement. Allez-vous pleurer, George ? Non. C'est bien. Parce que cela me gênerait. Je pourrais aussi me mettre à pleurer et je ne suis pas très doué. Personne n'irait jamais écrire de poème sur mes larmes. C'est si grave que ça ? si je puis me permettre de demander.
Assez, oui.
Elle l'avait dit avec désinvolture.
J'en ai peut-être pour 8 mois, ou 1 an. À moins que les traitements à base de plantes ou de noyaux de pêche ou de je ne sais quoi là-bas au Mexique n'opèrent une guérison magique. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Merci, George. C'est exprimé à la perfection. Pas de sentimentalisme déplacé.
J'ai souri.
J'ai une autre raison pour vous inviter à notre réception. Même s'il va sans dire que votre charmante compagnie et vos brillantes réparties suffiraient. Phil Bateman n'est pas le seul à prendre sa retraite. Non, Mimi, ne faites pas ça. Prenez un congé maladie s'il le faut, mais...
Elle secoua catégoriquement la tête.
Malade ou bien portante, 40 ans, c'est suffisant. Il est temps de laisser la place à des mains plus jeunes, des yeux plus jeunes et un esprit plus jeune. Sur ma recommandation, Deke a embauché une jeune bibliothécaire, tout ce qu'il y a de qualifié. Elle vient de Géorgie et s'appelle Sadie Clayton. Elle sera présente à notre réception où elle ne connaîtra absolument personne. Je vous demande donc d'être particulièrement attentionné envers elle.
Mrs. Clayton ?
Je ne le formulerai pas tout à fait ainsi.
Mimi me regarda innocemment.
Je crois qu'elle a l'intention de reprendre son nom de jeune fille dans un avenir proche, après certaines formalités légales.
Mimi, êtes-vous en train de jouer les entremetteuses ?
Pas du tout !
Se récria-t-elle. Puis elle gloussa.
Pas exactement. Mais comme vous serez notre seul professeur libre et sans attache, cela fait de vous le candidat tout indiqué pour lui servir de guide.
Je trouvais que c'était un bond gigantesque dans l'illogique, surtout de la part d'un esprit aussi rationnel, mais je l'ai raccompagné à la porte sans le lui dire. Voici ce que j'ai préféré exprimer. Si c'est aussi grave que vous le dites, vous devriez déjà être sous traitement, et pas chez un quelconque charlatan de Juarez. Vous devriez être hospitalisé à la Cleveland Clinic. J'ignorais si la Cleveland Clinic existait déjà ou pas, mais à ce stade-là, je n'avais que faire des anachronismes.
Ce n'est pas mon avis. Entre mourir dans une chambre d'hôpital farcie de tuyaux et reliée par des câbles à des tas de machines, et mourir dans une hacienda mexicaine au bord de la mer, il n'y a pas photo, comme vous dites. Et puis... il y a autre chose aussi.
Elle me regarda sans ciller.
La douleur est encore supportable. Mais je me suis laissé dire que ça changerait. Au Mexique, nul ne se retranchera derrière des postures morales pour me refuser de fortes doses de morphine. Ou de nambutal, si l'on doit en arriver là. Croyez-moi, je sais ce que je fais.
Considérant ce qui était arrivé à Al Templeton, j'ai deviné que c'était vrai. J'ai passé mes bras autour d'elle, l'étreignant très doucement cette fois, et posé un baiser sur sa joue parcheminée. Elle l'a supporté avec le sourire, puis s'est débinée. Ses yeux scrutaient mon visage.
« J'aimerais connaître votre histoire, mon ami. »
J'ai haussé les épaules.
« Je suis un livre ouvert, Miss Mimi. »
Elle a ri.
« Vous vous foutez de moi. Vous prétendez être du Wisconsin. Or, vous débarquez à Jody avec un accent de Nouvelle-Angleterre à couper au couteau et des plaques d'immatriculation de Floride. Vous dites que vous faites la navette entre ici et Dallas à des fins de recherche, et votre manuscrit est censé se situer à Dallas, mais les gens y causent comme en Nouvelle-Angleterre. En fait... j'ai relevé 2 ou 3 passages où les personnages disent carrément « Eh ouais !» Vous voudrez peut-être les modifier.
Et moi qui pensais ma réécriture habile.
En fait, Mimi, en Nouvelle-Angleterre, on dit « Way », pas « Why ».
C'est noté. Elle continua à scruter mon visage. Je luttais pour ne pas baisser les yeux.
Il m'est même arrivé de me demander si vous n'étiez pas un extraterrestre. Comme Michael Rennie dans « Le jour où la Terre s'arrêta ». Débarqué ici pour étudier les indigènes, avant de retourner sur Alpha du Centaure faire votre rapport sur notre avenir en tant qu'espèce. Y a-t-il encore de l'espoir pour nous? Ou vaut-il mieux nous désintégrer au rayon plasma avant que nous ne contaminions le reste de la galaxie? Voilà qui est très fantaisiste, ai-je observé en souriant. Bien. Mais je ne voudrais pas que notre planète soit jugée à l'aune du Texas. Si Jody servait d'échantillon, je suis sûr que la Terre aurait au moins la moyenne. Vous vous plaisez ici, n'est-ce pas? Oui. George Amberson, c'est votre vrai nom? Non. J'en ai changé pour des raisons importantes pour moi, mais qui ne seraient compréhensibles pour personne d'autre. Je préfère que vous gardiez ça pour vous. Pour des raisons évidentes. Elle hocha la tête. Je peux le faire. Je vous dis à bientôt, George. Au restaurant, à la bibliothèque et à notre petite fête, bien entendu. Vous serez gentil avec Sadie Clayton, n'est-ce pas? La gentillesse même, lui ai-je assuré. Après son départ, je suis resté longtemps assis dans mon salon, sans lire, sans regarder la télé. Travailler sur l'un de mes manuscrits était le cadet de mes soucis. Je pensais au poste que je venais d'accepter, enseignant d'anglais à temps plein au lycée de Denholm, berceau des Lions. J'ai décidé que je ne regrettais rien. J'étais capable de rugir à la mi-temps avec les meilleurs d'entre eux. En fait, si. Je regrettais une chose, mais pas pour moi. Quand je pensais à Mimi et à sa situation actuelle, j'avais des quantités de regrets.